Nous lisons dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du verset 25. Jésus est né et le huitième jour, il est amené au temple pour être circoncis. Le verset 25 nous dit ceci. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. On peut dire aussi afin que le cœur soit dévoilé tout simplement. Voilà ce qui est donné comme prophétie au sujet de Jésus. Il est encore bébé, 8 jours, dans les bras de sa mère, un homme rempli du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu qui était déjà vieux et Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Sauveur, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Et par la puissance du Saint-Esprit, quand il a vu le bébé, il s'est dit « c'est lui ». On lui a dit « c'est lui ». Et il est venu parler, prophétiser sur le bébé en présence des parents. Et lui-même, il dit que cet enfant est amené à destiner la chute et le relèvement. La chute des orgueilleux, le relèvement des humbles. Il dit encore, cet enfant est amené, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Déjà rien que le fait d'être un bébé qui est destiné à être lumière pour toutes les nations, gloire d'Israël, c'est une contradiction. Donc le roi vient sous la forme d'un bébé. C'est déjà une contradiction là. C'est des choses que les cœurs compliqués ne peuvent pas accepter. Le cœur suffisant ne peuvent pas accepter. Et verset 35, c'est écrit, « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut parler de la mort, de la crucifixion de Jésus. Donc quand sa maman, la maman de Jésus, va voir ça, il dit que ton cœur sera transpercé. Ça fait très mal. Déjà qu'un parent meurt, ça fait très mal. Mais si un enfant meurt, c'est encore plus douloureux. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin, l'objectif est le suivant, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. N'a-t-on pas, bien-aimé, nous tous eu un moment envie de voir Dieu agir d'une manière claire et puissante afin que les gens se taisent. Quand nous parlons de Dieu aux gens. Ou bien quand nous prions Dieu, il y en a qui se moquent, il y en a qui sont indifférents. Oh, nous sommes animés de l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut sauver tout homme. Et il nous a communiqué son amour. Il y a des moments, nous voulons tellement que tous soient sauvés. Et nous disons, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne parais pas clairement une fois pour toutes, puissamment? Ou bien pourquoi tu ne me donnes pas des super pouvoirs? Comme ça, les gens vont voir clairement que c'est toi qui es Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas aux chrétiens une supériorité financière, une supériorité numérique qui s'impose sur les autres, qui voient clairement que nous prêchons le véritable Dieu? Nous avons eu tous cette envie. Il y en a même qui disent, mais s'il y a des miracles, il y en a qui souhaitent tellement que Dieu fasse des miracles en se disant, mais tiens, s'il fait des miracles, les gens croiront que ce que nous disons est vrai. Mais, curieusement, Dieu n'a pas décidé de faire les choses ainsi. Le but est le suivant, que les cœurs soient dévoilés, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Est-ce que vous pensez que si nous promettions par notre prédication et avec preuve à l'appui une santé sans faille, c'est-à-dire on dit si tu crois en Jésus, tu auras une santé sans faille pendant 120 ans, donc tu mourras en bonne santé et jeune. Si tu crois en Jésus, tu seras marié. Si tu crois en Jésus, tu auras le choix entre les quatre plus belles voitures de la terre. Si tu crois en Jésus, un château t'est réservé. Si tu crois en Jésus, tu auras de beaux enfants. Vous croyez qu'il y aura encore sur la terre une seule personne qui ne croit pas en Jésus? Mais tout le monde va venir. Mais est-ce que les gens vont venir parce qu'ils ont accepté que leur cœur change, que leur vie change, qu'ils soient à l'image de Dieu? Non. Vous croyez que les radars ou les feux rouges changent les cœurs des automobilistes? Non. Les gens, quand ils arrivent près du radar, ils ralentissent. Dès qu'ils dépassent, ils augmentent encore la vitesse. Est-ce que les tribunaux et les lois changent-ils les cœurs des hommes? Non. La preuve, même ceux qui nous dirigent sans cesse sont attrapés en flagrant délit de vol, d'escroquerie. Notre souhait est logique, humainement parlant. On se dit, mais tiens, je viens en chemise comme ça, parler à quelqu'un qui est riche, je viens lui parler de Dieu, mais il n'en ressent pas le besoin, lui. Si Dieu au moins me donnait une supériorité matérielle face à lui, Dieu me donnait une puissance de miracle face à lui, le monsieur croirait. Mais beaucoup feraient semblant, bien-aimés. Beaucoup mentiraient. Ils viendraient juste pour dire nous sommes devenus chrétiens, mais juste pour profiter de tous les avantages que Dieu donnerait. Mais en réalité, leur cœur restera le même pourri. N'a-t-on pas vu beaucoup de gens changer de parti politique juste pour se faire élire? Son cœur n'a pas changé, mais il change juste de carte d'identité, de positionnement politique pour se faire élire. Parce qu'il y a des avantages. Nous avons tous souhaité cela. Ah Seigneur, si tu pouvais faire des miracles, Seigneur, si tu pouvais glorifier ton nom, Seigneur, si tu pouvais m'enrichir, ma famille verrait que j'ai fait le bon choix. Non, Dieu a décidé de parler dans la simplicité, afin que seuls ceux qui veulent vraiment changer viennent à lui, afin que ceux qui sont réellement brisés, ceux qui ont réellement accepté de s'humilier, que seuls ceux-là viennent à lui. C'est ça la réalité de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il en parle dans l'épître aux Corinthiens, il dit « Notre évangile est un scandale. Comment pouvons-nous prêcher que la crucifixion d'un homme apporte le salut de l'humanité ?» Ce n'est pas logique. Dans l'humanité, le salut est souvent apporté par un guerrier, par quelqu'un, une armée puissante. La libération par rapport à l'occupation 40-45 est venue par les Américains, débarquement de Normandie, avec des ports artificiels, des bateaux extraordinaires, des armes extraordinaires. Nous sommes habitués à une libération, à une délivrance qui vient en puissance et en force. On se dit, mais pourquoi alors le Seigneur a choisi de venir simplement comme ça? Ça ne va pas convaincre les gens. Si, ça va convaincre les gens qui sont attentifs. Ça va convaincre les gens qui sont humbles. Ça va convaincre les gens qui sont simples. Il n'y a que les gens qui sont simples qui peuvent être changés par Dieu. Les orgueilleux n'accepteront pas. Or, si Dieu était venu en puissance, en gloire, tous allaient faire semblant d'être, de l'accepter. Mais il y aurait eu des hypocrites au milieu, des faux. Maintenant, nous les humains, puisque nous ne pouvons pas lire le cœur des gens, nous allions considérer tout le monde comme étant bon. Mais le jour du jugement, si Dieu déclassait 80%, on allait dire, mais comment se fait-il qu'il les déclasse? Pourtant, ils étaient avec nous. Ils ont dit qu'ils aimaient Dieu. Mais Dieu, il est écrit dans sa parole, il connaît les cœurs. C'est écrit dans Jérémie 17. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est capable de savoir qu'au milieu de nous, un tel est vrai chrétien, un autre n'est qu'un religieux qui vient juste apaiser sa conscience, mais il n'a pas laissé sa vie être changée par Dieu. Il le sait, mais nous les humains, nous ne savons pas toujours. Parce que nous n'avons pas la capacité de lire dans les cœurs, mais lui, il a la capacité de lire. C'est pourquoi il est venu en simplicité, afin que les gens n'aient pas peur de lui. Les gens expriment vraiment ce qu'ils sont en réalité. N'avez-vous jamais assisté à des scènes où on est dans un bureau, on est en train de critiquer le patron, dès qu'il vient, tout le monde se tait. Bon, imaginez que le patron était là, mais sans qu'on s'en rende compte. On allait parler comme on veut. Donc nos cœurs auraient été dévoilés et lui, il est là, il entend. Mais quand il est là, personne ne dit mot. Parce qu'on ne veut pas perdre son travail. Donc on se tait. Les cœurs sont cachés. Mais quand il n'est pas là, chacun y va de sa critique. Ah, il est ceci, il est cela. Il est gros. Mais quand le patron vient, tout le monde, chef, sourire. Parce que les gens ont peur de perdre le travail. Leur cœur est caché. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a joué au patron fourmi. Il est venu en homme simple. Jésus est venu en homme simple afin que les gens n'aient pas peur de lui et qu'ils disent vraiment le fond de leur cœur. Et aujourd'hui, il nous utilise de la même manière. Il nous a sauvés et il a laissé que nous soyons dans une apparence de simplicité et parfois de dépouillement, afin que les gens, face à notre message de salut, face à la proposition de salut de Dieu, ils soient transparents, ils disent réellement ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce que si nous venions d'une manière impressionnante, ils auraient peur, ils cacheraient ce qui est dans le cœur. Alors il est venu dans la simplicité. C'est ça l'évangile. C'est vrai qu'il a promis de faire des miracles. C'est ça la contradiction qu'il y a. D'un côté, Jésus a fait des miracles impressionnants. Il a calmé la tempête. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Au fait, la Bible appelle tous ces miracles de Jésus, la Bible les appelle des signes. Dans le monde des services secrets, on considère, on appelle renseignement toute information qu'on peut utiliser. C'est-à-dire si on apprend que tu étais parti chez un coiffeur et que ça n'a pas d'importance, on n'appelle pas ça renseignement. Ce n'est qu'une information. Ça devient renseignement que lorsque l'information est utile pour protéger le pays, pour mieux te cerner. Mais tant que c'est léger comme ça, ce n'est qu'une information. Les miracles de Dieu, les miracles du Seigneur sont des signes. Ça veut dire que ce sont des messages. Si quelqu'un ne saisit pas le message, ça reste qu'un miracle. Ça n'a aucun effet sur sa vie. Ça n'a qu'un effet temporaire. Au moment où ça se passe, on est étonné. Il a calmé la tempête. Il a fait marcher un boiteux, un infirme. Il a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle voit. On est étonné, mais ça n'est resté qu'un miracle. Ça n'a pas été un signe. Un signe, donc, c'est une information qui te renseigne sur la suite, sur la personne qui est en face. Donc, la personne a fait le miracle, tu as dit, « Ah, ça doit être lui que nous attendions. » La Bible, donc, appelle les miracles aussi des signes. Lisons Jean au chapitre 2. Mais nous sommes appelés à vivre dans cette contradiction-là. D'un côté, nous allons faire montre d'une joie surnaturelle, d'une paix surnaturelle. Nous allons expérimenter des miracles surnaturels. De l'autre côté, nous allons garder une apparence et des limitations purement humaines qui font que nous n'impressionnons personne. Ils sont parfois touchés par ce qu'on peut manifester comme joie ou paix ou miracle. Mais en même temps, quand ils voient qu'ils ont 5 voitures, nous, on n'en a qu'une, ils se disent, bon, ce n'est pas non plus impressionnant. Il y a toujours une contradiction dans la vie d'un chrétien. Il y a un chant qu'on chante en anglais, « Meekness and Majesty », c'est ça. Donc, il y a la simplicité, la candeur, l'humilité, mais en même temps, il y a la gloire. Le chrétien expérimente les deux choses, la gloire et la simplicité, ces deux choses-là. Et nous devons comprendre ça si nous voulons fonctionner avec Dieu. Nous devons comprendre ça si nous voulons sauver les autres. Nous ne devons pas penser que pour sauver quelqu'un, il faille à tout prix l'impressionner. Impressionner quelqu'un peut faire que la personne dise « je deviens chrétien » juste parce qu'il a été impressionné. Mais le vrai salut vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça va parler au cœur de la personne. Ce que Dieu veut, c'est le cœur d'une personne. Dieu ne cherche pas le nombre. Il n'est pas une star de musique qui cherche à remplir un stade ou bien vendre des CD. C'est quelqu'un qui veut sauver. Et quand on veut sauver, on n'est pas dans le tralala, on n'est pas dans le spectacle, c'est du sérieux. Il veut sauver, il veut prendre le cœur. C'est pourquoi il parle le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est sa parole. Le langage du cœur, c'est sa simplicité. Donc Dieu vient dans la gloire afin d'être un signe. Quand tu vois, tu dis, mais tiens, c'est curieux. Quand je vois un tel miracle, je devrais être attentif à ce que je vois là. Et quand tu es attentif, tu entends sa douce voix. Quand tu as un cœur simple, si tu as un cœur orgueilleux, après avoir vu le miracle, lisons Jean 2, il ne faut pas que je parle beaucoup, dans Jean 2, c'est écrit ceci, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs, c'est moi qui rajoute le mot en apparence, le terme en apparence, plusieurs, je rajoute, en apparence, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus avait la capacité de lire dans le cœur d'un homme. On se souvient de la réponse de Pierre quand Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre a dit oui la première fois quand Jésus a insisté. Pierre a dit « Seigneur, tu sais toutes choses, parce que toi tu lis dans les cœurs, donc tu sais que je t'aime. » Il s'est arrêté là. Donc Pierre était conscient que le Seigneur connaissait le cœur. On nous dit que, en apparence, c'est moi qui rajoute vu le contexte, en apparence, beaucoup de gens ont suivi Jésus quand il faisait les miracles à Jérusalem. Mais Jésus savait que tout ça, c'était un suivisme par intérêt. Ils ont suivi parce qu'ils ont été impressionnés par les miracles. Mais le cœur n'était pas touché. Parce que les cœurs ne peuvent être touchés que par la parole de Dieu, par la simplicité de Dieu. Un cœur qui est touché, c'est un cœur qui se livre à Dieu. Quand on se rend compte que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui nous a créés, la conséquence, c'est qu'on se livre à lui. On ne peut pas tout simplement que le suivre parce qu'il y a eu tel miracle hier et tel miracle avant-hier. Ça, c'est du spectacle et du profit. Ce n'est pas la vraie transformation. Quand on reconnaît qui est Dieu pour soi, automatiquement, on se laisse porter par lui. Mais comment reconnaître cela si on n'en est pas informé? C'est ça le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous informe qui est Dieu. La parole de Dieu nous informe de qui nous sommes aussi. La parole de Dieu nous parle du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand on est au courant de tout ça, on a un choix à faire. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, nous aide par certains signes, des signes de gloire et de puissance. Mais si nous ne percevons pas ces signes comme des renseignements, ça va rester juste de l'information, juste de l'apparence. On a vu la gloire, mais ça n'a pas amené à la transformation. Il n'y a pas eu le lien entre le miracle qu'on a vu et la compréhension de Dieu. Et ça, c'est malheureux, parce qu'à la fin des temps, tu vas dire quoi? Que Dieu n'a rien fait pour t'attirer. Il a fait quelque chose. Il t'a envoyé quelqu'un. Tu as observé quelque chose qui t'a épaté chez un enfant de Dieu. Tu as vu quelque chose. Parfois, toi-même, tu as expérimenté. Même quand nous n'étions pas encore dans le Seigneur, nous n'étions pas encore des enfants de Dieu. Quand on était des incroyants, il y a des moments où nous avons... Moi, je me souviens, j'avais que 10 ans. Mais lorsque je regardais le ciel étoilé, je me disais, mais non, mais Dieu ne peut qu'exister. Sans que quelqu'un m'en parle, j'étais émerveillé par la création. Mais cependant, en grandissant, on prend des chemins qui ne sont pas bons, des chemins de péché, des chemins de mal. Mais les signes sur Dieu, on les a eus. On les a vus. Et un jour, ces signes vont jouer leur rôle. Et un jour, confronté au message de l'Évangile, ces signes que j'avais eus dès l'âge de 10 ans, en regardant le ciel, en voyant comment c'est grand, c'est majestueux, au point que mon objectif c'était d'être astronome et d'aller à la Lune, c'est ce signe-là que j'ai eu à l'âge de 10 ans. Un jour, quand j'ai été confronté au message de l'Évangile, il y a eu coordination entre le signe et la parole de Dieu, je me suis donné à Dieu. Dieu nous envoie des signes, mais que ces signes ne demeurent pas que des informations, que ça devienne des enseignements et des renseignements pour nous pousser à réfléchir, pour nous pousser à venir à lui de tout notre cœur parce qu'il nous aime, il veut nous sauver. Alors, notre problème, c'est que quand nous disons aux gens, mais Dieu veut te sauver, Dieu veut t'amener au paradis, mais en même temps, nous avons l'impression que c'est les méchants qui dominent sur terre. Alors, on a envie de dire à Dieu, mais Dieu, mais manifeste-toi et tape les méchants, comme ça les gens verront que tu es glorieux. Au moins qu'en nous écoutant, ils choisissent le camp du plus fort. Mais Dieu nous donne une réponse simple. C'est ça les signes, c'est ça la différence entre juste une information et un signe. Dieu nous dit, mais tous ces méchants-là qui semblent dominer, ils meurent un jour et ils sont enterrés. Aucun d'entre eux n'a vaincu la mort. Mon fils Jésus est mort le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est le seul à avoir vaincu la mort. C'est ça qui prouve que je suis plus fort que tous ces méchants-là réunis, parce que j'ai vaincu la mort, eux ils ne l'ont pas vaincu. Dieu a ses réponses. Il nous dit, mais parmi tous ces puissants du monde, qui est celui qui a donné sa vie pour les autres? Personne. Mais Jésus a donné sa vie pour les autres. Il a été crucifié à la place des autres. Le Seigneur a ses réponses. Il y a des réponses. Mais nous, on a des envies, mais qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il veut. Il veut dévoiler les cœurs. Mais nous, on veut manifester la puissance de Dieu pour faire taire les gens. Mais Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Il ne cherche pas à faire taire les gens. Un jour, il fera taire tout le monde. C'est le dernier jour. Mais tant qu'il veut encore sauver, il ne veut pas encore faire taire les gens. Il veut les amener à être sauvés. Il veut leur parler. Et souvent, on a envie de, mais Seigneur, montre ta gloire, montre ta puissance, montre que tu... Voilà. Qu'il y ait, par exemple, un incendie et que nous, on passe là, on dit... Tais-toi, incendie, et que le feu s'arrête. Les gens verront que notre Dieu est tout puissant. Oui, mais les gens nous suivront un instant, un mois, deux mois. Après le jour, ils viendront nous dire, monsieur, j'ai des problèmes à la banque. Est-ce que votre Dieu peut me trouver 4000 euros? Et quand on va lui dire, mais écoutez, on va prier. Ah bon, on n'a que la prière comme recours. Il n'y a pas Il n'y a pas du cash. Ah non. Ah ben non. Donc je croyais que celui qui peut éteindre l'incendie peut me donner les 4000 euros à souhait. Ah non, ce n'est pas le cas. Dieu veut qu'on soit honnête. Quand on a mal dépensé, quand on a mal utilisé l'argent, ben Dieu n'est pas là pour commencer à être notre banque et faire tout ce qu'on veut avec l'argent. Non. Voilà. Dieu veut changer notre vie. Il veut que nous puissions être à son image. Des gens remplis d'amour, des gens refusant le mal, des gens comprenant que ce monde est de passage, qu'il y a un autre monde qui nous attend, l'éternité qui nous attend. Des gens qui comprennent aussi que Dieu veut nous être notre Père sur terre. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Mais il ne cherche pas à être notre banquier, ni notre hôpital, ni notre agence matrimoniale. Il cherche à être notre Père. S'il est notre Père, nous savons qu'il s'occupe de nous à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. C'est ce qu'il veut que nous comprenions. Mais s'il venait directement comme ça, rien qu'en faisant des exploits pour montrer qu'il est le grand, le tout-puissant, rien que de cette manière-là, beaucoup vont venir juste par intérêt. Les cœurs ne seront pas dévoilés. Dieu veut dévoiler les cœurs. C'est pourquoi d'un côté, il fait des signes miraculeux. Des signes, pas forcément miraculeux au sens humain du terme, mais des messages. Ça peut être doux, parce que moi, quand j'ai vu les étoiles, c'est déjà un miracle, le nombre des étoiles. Mais pour certains, ils ne le perçoivent pas comme des miracles. Mais pour celui qui est attentif, pour celui qui est simple, il voit que c'est un miracle. Quand hier, avant-hier, j'ai vu un bébé, mais j'ai dit, mais... Comme c'est parfait un bébé, quoi. Comme c'est parfait. Et c'est un miracle. Mais tout le monde ne le voit pas comme cela. Mais quand on peut observer ces choses-là, observer les beaux paysages, on devrait chacun considérer que c'est extraordinaire. Et à partir de là, réfléchir sur notre existence terrestre. Et peu de gens le font. Vous allez me dire, mais pourquoi alors Dieu ne rajoute pas encore quelque chose d'autre pour que les gens voient? Mais non, mais les gens, là, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus a fait beaucoup de miracles. Les gens en apparence ont cru, mais leur cœur n'a pas été changé. Et Jésus ne se fiait pas à tout ça, parce que lui, il lisait dans les cœurs. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu viendra en simplicité, et en même temps dans la gloire. Les deux en même temps, afin que dans les moments de simplicité, les cœurs soient vraiment dévoilés. Dans les moments de gloire, que ce soit un signe, afin que les gens soient attentifs à la parole de Dieu. Maintenant, les moments de simplicité sont là pour voir qui a vraiment cru en ce qui a été dit et qui a suivi juste quelques signes comme ça, par esprit de profit ou esprit d'être dans le camp du plus fort aussi. On peut, combien de gens ont renié le Seigneur parce qu'ils se disaient, mais tiens, j'ai choisi le camp du plus fort. Et puis viennent des persécutions, des difficultés, ils disent, mais tiens, je ne comprends pas comment Dieu ne me sort pas de ces difficultés. Je croyais être dans le camp du plus fort. Et il recule. Il recule parce qu'il n'a pas cherché la transformation de son cœur. Il a cherché la protection du plus fort, malheureusement. Or, Dieu est fidèle. L'apôtre Paul a dit, j'ai subi plusieurs malheurs, mais Dieu m'en a délivré de tous. Il m'a délivré de tous ces malheurs-là. Là, c'est une autre phase. Premièrement, je parle de la conversion. Après, je vais parler de la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, ça va être comme ça. Dieu va faire des exploits, en même temps nous laisser dans des difficultés, afin de nous garder dans l'humilité. Les exploits fortifient notre foi. Les difficultés nous maintiennent dans l'humilité, afin que nous continuions à nous confier en lui, parce que si nous demeurons que dans les exploits, nous finirons par croire que nous sommes extraordinaires. Que nous sommes comme Dieu lui-même. Souvenons-nous, bien-aimés, que Dieu a commencé par les exploits. Adam et Ève vivaient dans la gloire. Ils ne connaissaient aucune difficulté que nous connaissons ici. Ils vivaient dans la gloire, dans la puissance, au point de cohabiter avec les lions, les animaux sauvages. Mais à l'époque, ils n'étaient pas sauvages. Au point de donner les noms aux animaux. Mais est-ce que ça a empêché qu'il pêche, Adam? Non. Est-ce que ça a empêché qu'il se rebelle contre Dieu? Non. Donc comprenons que Dieu a changé de système. Puisque la vue, la gloire tout le temps, les exploits tout le temps, n'ont pas empêché que l'homme devienne son ennemi, Dieu veut conquérir le cœur. S'il conquiert le cœur, après il sait que plus tard, la relation sera maintenue, la relation sera gardée. Est-ce que vous, si vous êtes un homme, vous aimeriez que votre femme vous aime parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que vous êtes physiquement fort? Non. Vous allez souhaiter qu'il vous aime de cœur à, qu'elle vous aime de cœur à cœur. Parce que vous savez que la force, vous la perdrez un jour. Et l'argent, ce n'est pas toujours constant sur terre. Donc vous allez chercher à conquérir le cœur. Quand j'ai donné l'exemple, le patron qui arrive, tout le monde se tait, tout le monde sourit. Bonjour chef, bonjour chef. Mais quand il n'est pas là, chacun raconte quelque chose contre lui. Donc ce patron-là n'est patron qu'en apparence. En réalité, il n'est pas le patron parce qu'il ne dirige pas les cœurs des gens. Mais quand quelqu'un te respecte dans son cœur comme son chef, que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est comme si tu es là. Parce que dans son cœur, tu as conquis son cœur te respecte. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas quelque chose d'apparence ou parce qu'il va apparaître en puissance et en force. Là, on a peur de lui. On le craint, on le respecte. Et quand il ne semble pas être là, maintenant on se fait notre propre chef. Dieu ne veut pas de cela. C'est pourquoi Jésus est venu dans la simplicité. D'un côté, il y a les miracles. De l'autre côté, il n'a pas de maison. D'un côté, il prêche avec autorité et puissance. De l'autre côté, il est habillé comme tout le monde. Il marche à pied. Voilà. Il fallait cette contradiction-là pour que les cœurs soient dévoilés. D'un côté, il est crucifié. Ah, ce jour-là, vous connaissez la scène de la crucifixion de Jésus. Mais ce jour-là, les gens se sont lâchés. Hein? Il y a les femmes qui ont pleuré. Alors que c'était elles qui disaient quand Jésus prêchait, quelle autorité elle, il parle avec autorité. On connaît la femme, l'histoire de la femme qui, elle a vu Jésus, elle a dit, mais heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Hein? Heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Parce qu'on peut être impressionné par ma prédication, on peut être impressionné par mes miracles, mais à quoi ça sert si ça ne t'amène pas à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique? ça ne sert à rien. Tu restes un spectateur impressionné, un point c'est tout, et tu ne changes pas. C'est ce qui se passe quand les gens voient, vont regarder les matchs. Ils sont impressionnés, mais quand ils sortent, les mêmes problèmes les retrouvent à la maison. S'il était au chômage, il reste au chômage. Ce n'est pas un bon match qui va faire qu'il soit plus au chômage. Hein. S'il était en colère contre quelqu'un, dès que le match finit, il le retrouve au quartier, la même colère revient. Mais le Seigneur veut transformer les cœurs des gens. Il veut sauver intégralement. N'ayons pas honte de notre apparence double. D'un côté, il y a des aspects de gloire, de l'autre côté, des aspects de simplicité. C'est fait exprès afin que les gens en face de nous se livrent entièrement, disent le fond de leur cœur. Et ça peut parfois les amener au salut en disant le fond de leur cœur et nous on corrige et on parle encore davantage. Ça peut les amener au salut. Mais si nous ne venons, imaginez que vous rencontrez un ami qui avait un cancer. Vous dites, mais non, mais Jésus peut vous guérir. Et vous priez pour l'ami, il guérit. Après, vous dites, mais j'ai été licencié à cause de ma maladie. Mais bon, demain, vous allez voir l'employé, nous allons prier. Votre employeur, nous allons prier. Vous priez, le lendemain, il va voir l'employeur, il est repris au travail. Le troisième jour, vous dites, mais ami, il faut vous convertir et vous faire baptiser en Jésus qui vous a donné l'emploi et qui vous a guéri. Mais il va dire oui, bien sûr. Il sait qu'après, il va demander une 4x4, après, il va demander un château. Donc, mais il va dire oui. Mais Dieu va permettre, par exemple, que nous prions pour quelqu'un. Il est guéri du cancer, mais le lendemain, il est au chômage, afin qu'on sache qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'il veut juste qu'on lui donne le travail, la guérison, l'argent, ou est-ce qu'il veut que son cœur change et qu'il devienne un enfant de Dieu? Dieu va permettre les deux là, gloire et simplicité. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Lisons Jean 6, au verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus vient de multiplier le pain. Les gens sont contents, ils ont mangé. La multiplication des pains, il y avait tellement de pain qu'il y a eu des restes. C'est écrit dans Jean 6. Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent avec des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Les gens ont vu que 5 pains et 2 poissons ont été multipliés au point de nourrir plus de 5000 personnes. Ils se sont dit, « Mais non, mais qui peut faire un tel miracle si ce n'est le Messie que nous attendons pour sauver le monde ?» Lisons maintenant au verset 26. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Jésus leur répondit, donc on peut lire déjà au verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà ce qui se passe. Quand ils ont bien mangé, Jésus est parti à l'autre rive. Ils l'ont suivi, hein, à pied pour chercher, mais où est-ce qu'il est? Et quand ils retrouvent Jésus, Jésus dit, mais je sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas parce que les miracles que j'ai faits ont été pour vous un message qui a transformé votre vie? Non. Et que vous voulez vous attacher à Dieu? Non. Vous me cherchez parce que vous avez bien mangé le pain et le poisson. Vous voulez que je renouvelle le miracle. Vous mangez encore aujourd'hui. Le lendemain encore, plus de boulangerie maintenant en Israël. Donc il suffit, quand on a besoin du pain, chercher où Jésus se trouve, il va en multiplier. Non. Jésus dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt jamais. Parce que manger le pain, vous allez en manger, vous allez vous fatiguer, ça ne va rien changer. Un jour, vous allez vieillir et un jour, vous allez mourir. Moi, je vous propose une nourriture. Quand vous la mangez, elle fait de vous un enfant de Dieu. Et vous êtes élu pour l'éternité. Le jour de votre mort, vous ressusciterez plus tard. Vous ressusciterez pour vivre avec Dieu au paradis et non pas en enfer. Voilà ce que moi je vous propose. Quelque chose de plus important qui vous branche à l'éternité. Mais vous, vous voulez juste vous contenter du pain qui ne sauve pas, qui peut-être peut rassasier aujourd'hui, mais qui deux jours après, nous avons faim encore du même pain. Moi, je vais vous donner la nourriture céleste, la parole de Dieu qui transforme réellement. Bien aimé, c'est ça la réalité. Dieu veut voir qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pourquoi il va mélanger les deux. Meekness and majesty. Simplicité, gloire. Comme ça, vous savez, même nous, on a souvent constaté que là, quand vous êtes dans un groupe où il y a un chef qui est dictateur, les gens, ils ne sont pas libres. Et comme ils ne sont pas libres, ils deviennent hypocrites. Ils disent rien. Ils savent que ils disent quelque chose, ils vont se faire rabrouer. Autant rien dire. Et de son côté, le chef est dans une apparence de satisfaction. Je tiens bien mon groupe. Mais en réalité, il ne tient rien du tout. Parce que dans le cœur, les gens ne l'aiment pas. Les gens ne le considèrent pas. Mais lui, en apparence, quand il arrive, tout le monde se dit, bon, je tiens bien le groupe. Mais les gens préparent bien leur coup. Le jour, ils sont sûrs vraiment que là, on va la voir. Là, ils vont sortir leurs griffes. Et le chef est étonné. Il est déboulonné comme ça parce que le complot a réussi, parce qu'il ne s'en est pas douté, parce que les gens cachaient leur jeu. Maintenant, dans les groupes où on a un chef qui laisse la liberté aux gens de parler, les gens peuvent contredire. Dans ces groupes-là, les gens sont libres. Et leur cœur est dévoilé facilement. Et ça permet au chef de mieux les gérer, mais en même temps, c'est des difficultés parce que le chef ne se sent pas chef. Comme il y a cette liberté-là, que les gens parlent, que les gens contredisent, quand le chef se compare à d'autres chefs, il a l'impression que lui n'est pas pris au sérieux, il n'est pas... Mais c'est faux. En réalité, un tel chef gagne les cœurs des gens. C'est vrai qu'il va avoir une apparence comme quoi il n'est pas respecté, il n'est pas suivi. C'est faux, ce n'est qu'une apparence. En réalité, les cœurs suivent. Même si la chair des gens peut résister, mais leur cœur est quand même conquis. Parce que quand quelqu'un sait parler, sait discuter, c'est quelqu'un aussi qui sait recevoir. Mais quelqu'un qui ne parle pas, qui est bloqué, il ne peut pas recevoir parce qu'il garde ce qui est à lui. Mais quelqu'un qui discute, il sort ce qui est à lui, donc il peut recevoir aussi autre chose. Donc, bien aimé, même quand nous avons des postes de responsabilité, laissons, ce n'est pas le libertinage, ce n'est pas démocratie, la démocratie au sens humain du terme, c'est juste la liberté, c'est-à-dire que les gens s'expriment. Et si on peut corriger, on corrige. Faisons confiance à la parole que nous allons sortir et non à la puissance du chef qui s'impose. Faisons confiance en ce que nous disons qui vient de Dieu et non pas, ne cherchons pas à faire peur aux gens en disant « si vous ne m'obéissez pas, vous êtes maudits », tout ça, ça va faire taire les gens. Mais ça ne va pas changer leur cœur. Voilà, c'est ça le malheur. Et il faut que nous maintenions ces deux faces-là, simplicité et gloire. Il faut que nous acceptions ça aussi de la part de Dieu, les épreuves et la gloire en même temps, afin que les cœurs soient dévoilés. Et quand les cœurs sont dévoilés, ils sont faciles à être sauvés. Ne nous disons pas, ah, les païens nous voyant pauvres, ou bien nous voyant dans cette simplicité, ils ne vont pas croire. C'est faux. Est-ce que nous, il a fallu qu'un homme vienne de la lune pour que nous croyions? Non, nous avons cru. Nous étions face aussi à des chrétiens qui paraissaient simples. Mais nous avons été touchés par quelque chose chez eux. Moi, je me souviens, comme j'ai l'habitude de vous raconter, au Maroc, quand je me suis converti, les chrétiens chez qui j'habitais m'ont impressionné. Pas parce qu'ils ont guéri un malade, pas parce qu'ils ont donné la vue à un aveugle. Ils m'ont impressionné parce qu'on était en situation de galère, où la nourriture, c'était de l'or. Mais ces gens-là avaient la capacité de se maîtriser face à la nourriture qui me dépassait en tant que gourmand à l'époque et païen. Donc je me disais, mais comment ils peuvent être si maîtres d'eux-mêmes face à la nourriture comme ça? Ça m'a impressionné et j'ai été attentif maintenant à la parole de Dieu. Et je me suis converti. C'est ça, bien-aimé. Donc, mais pourtant, c'était des gens simples qui étaient dans la même galère que moi. Mais j'ai vu qu'en eux, il y avait une puissance qui était étrangère à la terre. C'était la puissance de Dieu, la puissance du ciel. Et j'ai été attentif. Voilà, bien-aimé. Même si nous paraissons simples comme ça, Dieu fait des différences dans beaucoup de choses. Et les gens qui observent, il y a deux catégories. Il y a des gens simples, mais il y a des gens orgueilleux. Les gens simples, quand ils observent ces différences-là, ils disent « Ah, je pense que Dieu existe vraiment, parce que ce que je vois dans cette personne-là vient de Dieu. » Mais les gens orgueilleux vont chercher toutes sortes d'arguments pour réfuter, pour faire tarder leur conversion, leur venue à Dieu. Pourtant, Dieu est quand même évident. Vous savez, c'est ça, Dieu mêle les deux. D'un côté, il y a les guerres, il y a les souffrances, il y a les maladies, mais de l'autre côté, lorsqu'on voit quand même les étoiles, on voit la grandeur de la mer. On voit la puissance d'une cellule. Vous savez, quand vous observez une cellule au microscope, une cellule, c'est une usine. Mais une usine dans un corps humain. Voilà, une usine. Donc, quand on vous décrit le travail qui se fait dans une cellule, ça dépasse même la plupart de nos usines ici sur Terre. Et quand je parle de l'usine, ce n'est qu'une partie de la cellule. Donc, je ne peux pas donner tous les noms. Ce n'est qu'une partie de la cellule dont je parle. Mais si maintenant on prend toute la cellule, ça devient comme une sorte de ville. Mais on en a des milliards dans le corps. Mais chaque cellule est comme une sorte de ville. Comme une sorte de monde. Alors quand on voit tout ça, on sait que là, Dieu existe. Mais de l'autre côté, on est dérangé par les guerres. On est dérangé par les souffrances. On est dérangé par les maladies. On est dérangé par certaines choses. Mais que ces dérangements-là nous montrent notre incapacité à tout saisir, mais que ça ne nous amène pas à renier l'évidence de la gloire de Dieu dans la nature, dans les chrétiens, dans notre cœur aussi, nous entendons sa voix de temps à autre, que nous soyons attentifs et acceptions le message de l'Évangile qui montre le message de Dieu d'une manière claire, par son Fils Jésus, qui seul a vaincu la mort, il donne la preuve par là qu'il vient de Dieu, qui seul a été crucifié pour nous, à la croix pour notre salut. Le message est clair. Et lorsque nous constatons ces signes autour de nous, de la gloire de Dieu, ces signes dans les chrétiens de la gloire de Dieu, les gens simples vont se convertir. C'est pourquoi quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous avons deux ou trois versets dans lesquels il est dit ceci. Paul, c'est Paul qui dit, on est arrivé dans tel endroit, on a prêché, ceux qui devaient se convertir, se convertirent. Donc la conversion n'est pas possible pour tout le monde. Elle n'est possible que pour les gens qui ont un cœur simple. Les gens qui réfléchissent sur leur propre déchéance, au lieu de perdre leur temps à réfléchir sur ce qu'ils trouvent d'anormal dans le monde, ils réfléchissent sur leur propre défaite. Parce qu'on n'en disconvient pas. Il y a des choses qui nous blessent. Les animaux sauvages, les guerres, les viols, les cambriolages, les massacres. Ça nous blesse. On dit, mais où est Dieu? Mais en même temps, un beau bébé, les belles fleurs, les beaux paysages, les belles étoiles. La création aussi nous dit que non, là, Dieu existe. Maintenant, comment concilier tout ça? La Bible donne l'explication. Mais comment en arriver à accepter d'être attentif au message de la Bible? Nous sommes dans cette équation-là. Nous nous mettons-nous à la place de quelqu'un qui voit tout ce qu'on est en train de décrire. D'un côté, la beauté de la création. D'un côté, l'amour. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, il y a des amours
qui ne sont possibles que d'une manière surnaturelle, l'amour de la maman pour son enfant, c'est quelque chose, quand vous observez ça, c'est d'une perfection extraordinaire. Quoi. Voilà. Alors, quand on observe tout ça, on dit que non, il y a quelque chose qui est au-dessus du côté animal de l'homme. L'homme ressemble à tout animal, mais il a quelque chose d'autre. C'est la divinité en lui. Mais de l'autre côté, quand on voit les guerres, les méchancetés, les injustices, les escroqueries, on se dit, mais comment concilier tout ça? Et on est bloqué. Alors, quand on est bloqué comme ça, il y a deux catégories de personnes. Il y a les orgueilleux et les humbles. Les orgueilleux qui vont chercher à trop réfléchir pour trouver leur propre réponse. Les humbles qui vont dire, bon, que le Créateur, s'il existe, qu'il se révèle à moi et m'explique tout ça. Et là, c'est là que tu deviens ouvert au message de l'Évangile. Et l'Évangile explique tout ça. D'où vient le mal sur la terre? Ça vient du péché d'Adam et Ève. L'Évangile explique tout ça. Et quelle est la solution? C'est la croix de Jésus. Jésus a été crucifié à notre place. Il a pris nos péchés sur lui. Et l'Évangile nous dit qu'un jour, comme Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, il va ressusciter tous ceux qui croient en lui et ils vivront éternellement au paradis. L'Évangile explique tout ça. Mais d'abord, il faut être conscient de ses limitations. Nous clôturons avec ce passage, c'est un long sujet, on clôture avec ce passage de Luc au chapitre 23, à la croix. Luc au chapitre 23, à partir du verset 39. Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Écoutons le premier malfaiteur. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, le centenier qui était chargé de surveiller sa crucifixion. Glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Certainement, ailleurs c'est écrit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Nous voyons que face à une scène, il y a deux réactions différentes, alors que c'est la même scène. Le premier voleur dit, ah ben s'il est le Messie, il n'a qu'à se sauver et à nous sauver nous-mêmes. On voit quel esprit? Esprit de profit. Il veut être sauvé, alors il provoque Dieu. Mais si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment Dieu, fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Je veux sortir de cette détresse. Et cet homme a son attention attirée vers tout ce qu'il trouve anormal. Il dit, mais en quelque sorte, il veut dire, mais comment lui qui dit qu'il est le Messie peut-il se retrouver à la croix? Je ne comprends pas. Alors, d'accord, tu ne comprends pas. Mais si tu ne comprends pas, demande les explications. Non, il s'est fait sa propre logique en disant, c'est pas normal. Moi, je croirais s'il se sauve et qu'il nous sauve. Mais non. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il fallait que Jésus soit crucifié pour que nous, on soit sauvés. Il fallait qu'il paye à notre place. Il fallait qu'il soit condamné à notre place. Cet homme ne s'est pas intéressé à sa propre limitation, à son propre péché. Il s'est intéressé au questionnement sur l'univers. Mais comment le Messie peut-il se retrouver à la croix? Au lieu de s'intéresser à sa propre déchéance. Le deuxième s'est intéressé premièrement à sa propre déchéance. il a dit au premier, « Mais nous deux, si on se retrouve ici crucifiés, parce qu'on est des voleurs, on mérite, on a fait des crimes. Mais lui, il est pur, il n'a rien fait. On a entendu parler de lui que c'est un homme sans péché. Comment il se retrouve ici ? Je ne comprends pas, mais ce qui est sûr, ne le mêle pas à notre histoire. Il est à part, cet homme. Il y a quelque chose. » Cet homme, en s'intéressant à sa propre déchéance, a pu recevoir l'explication que Jésus était là pour le salut de l'humanité. C'est ainsi qu'il dit à Jésus, « Quand tu reviens, récupère-moi aussi, quand tu reviendras dans la deuxième fois, ce que nous attendons tous pour nous ressusciter, récupère-moi avec toi. » Jésus lui dit, « Mais tu as bien compris, aujourd'hui même tu seras au paradis. Quand tu meurs, je t'amène au paradis. » Voilà les deux réactions qu'on retrouve sur terre face à la gloire et à la simplicité de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Au lieu de demander les explications à Dieu, ils refusent dans leur orgueil parce qu'ils se prennent eux-mêmes pour des dieux. Mais il y a des gens qui sont simples, qui voient bien qu'eux-mêmes, ils ont échoué. Ils ont la colère en eux. Ils ont les envies de suicide en eux. Ils ont la jalousie en eux. Ils n'ont pas le travail qu'ils cherchent. Ils voient bien qu'ils ont échoué quelque part. Ça n'a pas bien marché avec le mari ou bien la femme. Ils voient bien qu'ils ont échoué. Ce n'est pas à eux de juger quelqu'un qui semble aussi échouer. Au contraire, il faut qu'ils cherchent à s'en sortir. Et ils demandent des explications. Et ils cherchent Dieu pour dire, « Dieu, si tu existes, montre-toi à moi pour que tu me sauves et que je sois en paix. » Voilà la deuxième catégorie. Donc, bien-aimés, ne soyons pas dérangés par cette contradiction que nous manifestons dans nos vies, la simplicité, en même temps la gloire, les difficultés, en même temps les exploits. C'est afin que les cœurs soient dévoilés, que les vraies intentions soient connues. Dieu permet cela. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. » Donc ce n'est pas ce que nous voyons qui va nous impressionner, mais c'est ce que nous croyons, et ce que nous croyons vient de la parole de Dieu. Comment nous savons que c'est vrai ce qui est dit dans la parole? Parce qu'il y a des signes que Dieu a mis dans nos cœurs, et lorsqu'on a été attentif à ces signes, il nous a parlé et sa parole a transformé nos cœurs. Nous savons que ce qui est dit est vrai. C'est cela la réalité. Donc ne cherchons pas à changer la façon de faire de Dieu. Demeurons dans cette façon-là. Aspirons au miracle, mais tout en sachant que ce n'est pas les miracles qui sauvent, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Car c'est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, insistons dans la prière pour que Dieu sauve les gens et croyons en cela. Ne pensons pas que les exploits qu'il ferait avec nous, c'est ça qui va convertir les gens. Non, c'est sa parole qui va sauver les gens. Faisons confiance en Dieu. Dans la simplicité, parlons de lui. Dans la gloire, parlons de lui. C'est lui qui connaît les cœurs, qui sait faire la différence. Et si nous attendions à ce que Dieu nous impressionne pour nous convertir, on se trompe. Je vais vous te dire pourquoi tu dois te convertir. Souviens-toi que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour se laisser crucifier afin que toi tu sois sauvé. C'est pour cette raison que tu dois t'incliner et entrer dans son salut. Et c'est pour cette raison que toi, chrétien, tu dois marcher sans reculer parce que Jésus a tout accompli à la croix. Tu ne peux pas laisser ce sacrifice vain. Bénéficie de ce sacrifice. Profites-en pour évoluer jusqu'à son retour. Ne cherchons pas. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans le bureau qui m'a dit, aujourd'hui, quand je prie, je ne sens pas comme avant. Moi, je dis, mais non, Dieu écoute quand même. Bien-aimé, même si tu ne sens pas, je ne sais pas quel frémissement quand tu pries, Dieu écoute quand même, parce que tu as parlé. Bien-aimé, quand je dis, donne-moi de l'eau. Et je dis, donne-moi de l'eau. Mais bien-aimé, vous avez écouté. Je dis, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, c'est, vous avez entendu. Donc, quand tu pries faiblement, oh Dieu, secours-moi, il a entendu. Quand tu pries, oh Dieu, nous croyons, il a entendu. Tu n'as pas besoin d'effet.
Tu as besoin de la parole. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et que ça soit sérieux. Amen. Voilà. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont restés en retard parce qu'ils croient que Dieu ne les entend pas, parce qu'ils ne sentent pas. Mais tu veux sentir quoi, bien-aimé? Les gens qui écoutent Johnny Hallyday, ils sentent aussi. Hein? Donc ce n'est pas ça qui change la vie de quelqu'un. C'est le sérieux que tu mets dans ce que tu dis. Amen. Voilà. Prions que le Seigneur nous aide à accepter sa façon de faire afin que le cœur soit dévoilé au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier afin que tu fasses des cœurs simples. Nous ne voulons pas voir des cœurs tortueux, des cœurs remplis de raisonnements fatigants et épuisants. Nous voulons avoir des cœurs simples qui acceptent tout simplement tes signes et ta parole telle que tu nous les présentes. Ô Seigneur, au nom de Jésus. J'entends ta douce voix.